Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Justine Hutto, la fondatrice de Respire, le déodorant qui prend soin de vous et de la planète. À tout juste 25 ans, Justine est désormais à la tête d'une petite entreprise qui se développe rapidement après un crowdfunding à succès réalisé l'année dernière. Dans cet épisode, elle nous partage justement tous ses conseils pour réussir le lancement d'un projet, de la phase en amont à la phase de lancement puis d'accélération. Justine nous partage aussi les défis auxquels elle a dû faire face à chacune de ces étapes et comment elle les a surmontées, quelles erreurs fréquemment commises dans l'entrepreneuriat sont à éviter et au contraire, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Je remercie Daniel Wellington, partenaire de cet épisode où vous allez le voir, le temps joue un rôle particulièrement clé. Un an seulement s'est écoulé depuis la fin de la campagne de crowdfunding de Respire et tout est allé très vite. L'organisation et la maîtrise du temps ont donc été deux éléments clés dans leur succès et le sont pour toute entreprise qui se développe. Vous le savez, si vous écoutez souvent In Power ou regardez mes vidéos, la ponctualité n'est pas mon fort, mais c'est aussi parce que pendant longtemps, je ne portais pas de montre, et depuis que j'en porte une et qu'on m'a donné l'astuce de la régler 5 minutes en avance, mon taux de retard a fortement chuté et c'est une source de stress en moins au quotidien, et aussi d'excuses diverses pour justifier mon retard en moins à inventer. Pour découvrir la nouvelle collection Iconic Link de Daniel Wellington, et pour se faire plaisir ou pour offrir, vous bénéficiez en tant qu'auditeur et auditrice d'InPower de moins 15% de réduction sur toute la collection avec le code INPOWER15. L'offre est valable jusqu'au 12 décembre si vous souhaitez en profiter. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Justine. Bonjour Justine, bienvenue sur InPower, ça me fait très plaisir de te recevoir.
Bonjour Louise, merci.
Alors, est-ce que pour nos auditeurs, nos auditrices, tu peux te présenter comme tu le souhaites, en commençant par ce que tu veux ?
Alors, je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et je suis fondatrice de la marque Respire. Donc, c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec comme premier produit un déodorant naturel qu'on a lancé il y a peu de temps.
Ouais.
On l'a lancé en novembre 2018 via un crowdfunding,
ouais.
Du financement participatif. Où on avait pré-vendu plus de 21 000 déodorants en un mois. Ça avait été assez énorme. Mm. Pas mal de gens en avaient parlé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc ça a été plutôt chouette. Et récemment, du coup, début mai 2019, on a livré tous nos déodorants à nos premiers contributeurs, donc les 21 000 déodorants. On a lancé notre site internet, notre site e-shop respire.co, qui fonctionne très très bien, sur lequel on vend nos produits.
Ouais.
Et on a également lancé chez Monoprix. Dans toute la France. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que
ouais. Il
s'avère qu'on est en rupture de stock assez souvent. Et dès qu'on remet en stock, finalement, toutes les 24 heures,
c'est écoulé.
Voilà, les 4 références qui sont en rayon, sont écoulées. Donc, c'est assez
ouais. Incroyable. Bonne problématique à avoir.
Voilà, et là, on vient de lancer une crème solaire naturelle et minérale. Donc, c'est que le début. Voilà, on a lancé un déo et une crème solaire, mais.
C'est que le début, j'adore.
C'est que le début.
Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ?
Waouh, quand j'étais petite, mon. Premier job de rêve, c'était d'être pianiste, parce que je joue au piano.
Ouais.
J'en parle pas souvent.
Ouais.
J'en ai parlé avant, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, ça doit faire plus d'un an. En fait, quand je rentre chez mes parents, je joue. Mais ouais, je voulais être pianiste. Ensuite, je me suis rendu compte que d'être pianiste, c'était pas que du bonheur. Voilà, c'est vivre de sa passion, c'est chouette, mais il y avait peut-être plein d'autres choses que je voulais faire à côté. Ensuite, je suis partie en école de commerce sans trop savoir ce que je voulais faire.
Ouais.
Et mon deuxième rêve, ce qui est un peu absurde, c'était de travailler dans le conseil.
Okay.
Dans le conseil, d'entrer dans une grande boîte de consulting et de faire du conseil en finance à la base, parce que j'ai diplômé en finance, et potentiellement en marketing aussi.
Ouais.
Plein de rêves différents.
J'aime trop parce que je trouve que c'est archi représentatif de l'évolution des rêves et de la société qui entre en jeu. Tu vois, c'est qu'au début, quand t'es un peu insouciante, tu vas être pianiste parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est ta passion et bon, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire ce qu'on aime tous les jours.
Exactement.
Et quand même, pour avoir un rêve qui se transforme en travailler dans un cabinet de conseil et qui est un rêve que partagent certains de mes amis, ou en tout cas une ambition, parce que c'est ce qu'on vend comme étant très gratifiant socialement, très rémunérateur. Et je sais pas, moi perso, ça me fait pas rêver du tout, et peut-être que c'est trop cool, mais c'est marrant de voir à quel point ça a évolué.
Ouais.
Et en fait, qu'est-ce qui a fait que t'es pas finalement entré dans le conseil ? Est-ce que c'est parce que t'as eu l'idée de respirer avant, en même temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je dirais que oui, maintenant le conseil, ça me fait plus du tout rêver. C'est marrant, mais c'est vite passé. En fait, quand j'ai diplômé en finance, je me disais que l'aboutissement d'être allez, peut-être une pro des maths, des chiffres, de toutes ces notions financières, c'était bah, de l'appliquer en aidant les gens. Et je m'étais dit que le conseil, ça me permettrait de toucher plein de métiers différents et surtout plein de boîtes différentes et donc d'avoir une vie assez variée et pas uniquement sur le même boulot à chaque fois. C'est peut-être ça qui me tentait dans le conseil, sans même avoir fait de stage dans le conseil. Donc finalement, je ne sais même pas comment c'est là-bas. C'est vraiment ce qu'on m'a vendu. Et finalement, ensuite, j'ai fait une thèse sur les réseaux sociaux. Mon sujet de thèse initial, c'est pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est très particulier.
Sur le running,
du coup. Ouais, sur le running. En fait, c'est ce que... Donc, l'histoire de ma thèse, c'est que en 2016, je devais choisir un directeur de thèse à Montréal. Du coup, je faisais des études là-bas. Et mon directeur, qui était anthropologue... Enfin, j'avais plutôt un directeur qui était anthropologue. J'avais très envie de travailler avec lui. Et je vais le voir et je lui dis... alors là-bas, j'étais toujours sur une idée de conseil. Et je lui dis, j'aimerais bien me spécialiser dans comment je vais conseiller des marques à implanter leurs produits à l'international. Et donc, comment elles vont adapter leur marque à la culture des autres pays. Je lui présente mon sujet. Mon directeur me regarde et me dit « Ok, mais ça, perso, ça ne me passionne pas du tout. Donc, si tu veux étudier ça, ce sera avec quelqu'un d'autre.
Ouais. »
Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut étudier aujourd'hui. Je suis anthropologue, donc si tu veux travailler avec moi, il faut étudier un sujet de la société aujourd'hui et des comportements humains. Très bien, donc je suis partie chez moi toute triste. Je me dis « Ok, il faut que tu trouves un autre sujet, parce que j'ai très très envie de travailler avec lui. » Il a une super réputation, il a publié des articles dans plein de revues exceptionnelles en marketing. Et je suis revenue le lendemain avec une super idée, qui déclic dans la nuit.
Ouais.
Je lui dis « Écoute, il y a peut-être un questionnement que j'ai aujourd'hui sur la société et j'arrive pas à y répondre, c'est pourquoi les gens courent ? Pourquoi les gens se font chier à aller faire de la course à pied ? Je ne courais pas, je détestais ça.
Ouais.
Et je comprenais pas pourquoi les gens s'amusaient à aller courir. Et en fait, ma sœur et mes parents venaient de courir leur premier marathon en France. Et moi, je vivais à Montréal. Je me disais que j'étais le vilain petit canard qui aimait pas courir. Et donc, ça m'a vraiment... ça m'a tilté. Je me suis dit, mais pourquoi les gens courent ? J'ai envie de comprendre, en fait.
Ouais.
Je lui présente ce sujet-là. Il me dit, c'est passionnant. On va là-dessus. Et en fait, on trouve un sujet ensemble qui est plus axé marketing. Donc, pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme communauté de coureurs sur les
réseaux
sociaux. C'est genre, tout le monde adore partager quand il fait 5 km, 10
km.
On partage une photo de nous avec le nombre de kilomètres écrits. C'est assez exceptionnel. Et donc, on trouve ce sujet ensemble. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, 1, tu te mets à courir. Et 2, tu te mets sur les réseaux sociaux. Maintenant, il va falloir être empathique. D'accord.
L'horreur, le truc, t'avais pas signé pour ça.
J'avais pas du tout signé pour ça, j'avais pas du tout anticipé. Je suis rentrée chez moi en me disant, bon bah super ma vieille, tu viens de te trouver un nouvel avenir, tu vas te mettre à courir. Et par chance, en fait, je venais faire un échange à Dauphine, à Paris. Du coup, en fait, j'allais avoir la possibilité de courir déjà, parce qu'en janvier, c'était janvier 2017, et clairement, me mettre à courir avec moins 35 à Montréal, c'était hors de question.
Ouais.
Donc j'étais très contente de venir en échange à Paris pour... C'est très drôle de venir en échange à Paris quand on est parisienne, mais c'était...
Moi, c'était le principe,
voilà,
quoi.
Je voulais découvrir un peu la vie étudiante à Paris, et je me suis mise à courir à ce moment-là.
D'accord.
Et pour reparler, du coup, de mon boulot de rêve et pourquoi respire. En fait, à ce moment-là, j'écrivais du coup ma thèse et donc j'étais en train de rencontrer de plus en plus de coureurs, de plus en plus de sportifs. Je suis rentrée dans ce milieu sportif que je connaissais pas tant que ça à la base. Et de rencontre en rencontre avec la communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré les fondateurs des Étoiles du Sport, qui est un réseau d'athlètes olympiques, de parrainage en fait entre athlètes olympiques et puis même athlètes footballeurs pro, où en fait ils préparent les futurs athlètes, les espoirs de demain, à gérer le stress, à gérer la médiatisation, à se préparer en fait à vivre un rôle d'athlète. Et j'ai rencontré les fondateurs de ce réseau que je trouvais exceptionnel et ils m'ont proposé un CDI, de travailler pour eux. Donc en fait, à la base, après ma thèse, je devais rentrer dans le milieu du sport.
Ouais. C'est fou, rien de ça, pardon, je te coupe, mais je trouve que c'est incroyable, en fait, à quel point, tu sais, on a beau réfléchir à un parcours de vie, à quel point on nous prend un peu la tête sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et en fait, je trouve que c'est vraiment le parfait exemple que il suffit juste de poser une pierre, et après, le chemin se forme. Et moi, parfois, je trouve ça un peu même stressant, parce que, enfin, tu vois, tu te dis que t'aurais pu poser une autre pierre, ça se trouve, t'aurais fait ta thèse sur, je sais pas, les fraises en Afghanistan, tu vois, et tu serais peut-être devenue éleveuse de fraises.
Non, mais c'est bien, mais tu vois, c'est
assez
quand,
fascinant.
Quand je regarde en arrière, et je me dis, mais d'où ça part tout ça, c'est... On a du mal à le voir, quoi. Et franchement, quand j'ai annoncé mon sujet de thèse à mon directeur, J'aurais jamais imaginé que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui, bah ouais. avec une communauté de coureurs sur les réseaux sociaux. Ouais. Depuis, j'ai quand même couru 2 marathons et fait ouais. 120 km dans le désert.
Putain.
Donc la coureuse qui n'aimait pas trop ça,
ah finalement... Ouais. Parce que moi, je suis pareil, je déteste courir, je préfère grave la musculation. Et j'étais genre celle qui se cachait derrière les poubelles au lycée, tu sais, pour rater un tour et pour ensuite me relever et finir avec les autres comme si j'avais couru le même nombre de tours.
Mais j'étais carrément pareil. C'est-à-dire ouais. qu'en terminale, quand tu allais faire le 3 x 500 mètres,
exactement.
J'étais dispensée parce que j'ai... En fait, j'ai détesté ça. Donc c'est hyper drôle en fait de dire, mais... Voilà,
ouais.
où on est aujourd'hui, et en fait, qui on est quand on est gamin, on ouais, évolue ouais. hyper vite, quoi.
Bah, en même temps, j'ai l'impression que t'as juste fait confiance aux bonnes personnes, entre guillemets, enfin, à des personnes en qui t'avais vraiment confiance, et t'as saisi les opportunités, tu vois.
Ouais.
Tu t'es pas posé trop de questions, tu t'es parti là-dessus, enfin, c'est dingue, en plus, de dire t'as eu l'idée en une nuit, tu vois, genre, ouais. Vraiment, ça aurait pu être sur...
C'est ce que je dis toujours, c'est saisir les opportunités et provoquer sa chance.
Mmh,
en fait,
carrément.
On sait pas trop à quel moment... il va nous arriver quelque chose, mais les rencontres qu'on fait, ça nous apporte énormément. Et je me souviens, les Étoiles du Sport, du coup, ce réseau que j'ai rencontré, bah aujourd'hui, je travaille un peu avec eux, comme ça, je vais faire du conseil en stratégie digitale pour aider les athlètes espoirs à bien gérer leurs réseaux sociaux. Parce que
okay.
c'est quelque chose d'hyper important pour eux. C'est-à-dire que quand ils seront espoirs à Paris 2024, enfin, quand ils seront, non, athlètes pro à Paris 2024, qu'ils aient déjà une communauté de fans sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. De un, pour les marques, pour les sponsors, mais aussi pour leur communauté et pour eux gérer leur image. Parce que si c'est pas eux qui la gèrent, c'est les médias qui la gèrent à leur place.
C'est vrai.
Et du coup, c'est hyper important. Et puis même pour leur reconversion professionnelle derrière,
ouais.
aujourd'hui, c'est un sujet hyper important de gérer les réseaux sociaux.
Carrément.
Donc en fait, j'interviens près d'eux, donc sur la strate digitale, et c'est incroyable ce que ça m'apporte, en fait. Ils me boostent, ils me donnent de la motivation. Je dis ça parce qu'en fait, j'étais avec eux la semaine dernière, et clairement, les voir chacun parler de leur rêve qui est devenir athlète professionnel pour Paris 2024,
c'est ouf.
Et en fait, je les vois essayer d'aller jusqu'au bout de leur rêve avec des étoiles dans les yeux, et ça donne, mais... de la force et de l'énergie, c'est incroyable.
Surtout un rêve qui nécessite autant de sacrifices, quoi. Un des premiers invités que j'ai eu sur InPower, c'est Yannick Agnel.
Ah, génial, ouais. Je le connais très bien, du coup, on est aussi dans le sport ensemble.
Ok, bah, donc c'était vraiment passionnant, et c'est vrai que lui, il a vraiment eu cette question, parce qu'en plus, sa carrière s'est arrêtée sans qu'il l'ait vraiment choisi, tu vois.
Ouais.
Tu sais, on a conscience de tout ce que ça demande d'être un athlète, mais en fait, jamais on pourra s'imaginer la réalité que c'est, quoi.
Ah, c'est
franchement,
cool.
Bouffer d'un seul sport tous les jours, pendant des années, ne vivre en soi qu'autour de ça, parce que moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est que même en dehors de tes heures, entre guillemets, de travail, tout ce que tu fais impacte ton travail. Donc c'est genre ta passion doit vraiment dominer ta vie. Et enfin, en plus, je trouve que pour les Jeux Olympiques et tout, j'ai limite l'impression qu'ils se donnent pour notre pays, tu vois. Enfin, je trouve ça trop beau.
Ah, mais là, c'est clairement ça. Enfin, c'est vraiment, ils rêvent tous bleu, blanc, rouge. Quoi.
Ouais,
je veux être représentant de la France à Paris 2024, puis Tokyo 2020, là, pour ceux qui ont la chance d'y aller avant.
Ouais.
Mais c'est... Non, et puis c'est un sacrifice de vie, et en même temps, préparer déjà la reconversion professionnelle qui arrive derrière.
Ouais, en fait, c'est anxiogène, ça aussi,
ouais,
je trouve.
Hein.
T'as même pas mis le pied dedans, que tu dois déjà penser à qu'est-ce que tu vas devenir après.
C'est clair.
C'est là où la communauté aide sur les réseaux sociaux.
C'est
quoi.
Ça, et il y en a beaucoup qui après gèrent leur passion différemment, qui peuvent potentiellement devenir coach, ou qui peuvent, bah, comme Yannick Agnel, là il vient de sortir un livre, ou
suivre,
même aller faire plein de conférences,
cœur,
plein d'animations, aller commenter des compétitions de natation. Enfin, il continue à vivre de sa passion finalement.
Donc, c'est sûr, grave.
Ouais.
Et du coup, moi ça me surprend que tu aies le temps de continuer à faire du conseil. Alors que, comme tu viens de dire, t'as fondé Respire et qu'en plus, le début, c'est souvent le plus chronophage.
Ouais. Alors, c'est vrai que ce temps-là, je le prends.
Ouais.
Et en fait, c'est difficile de le prendre et de se dire, dans mon emploi du temps, je vais le caler, je vais partir 4 jours à Vichy, parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, du coup, à l'Université des Étoiles. Mais en le faisant, c'est vrai que j'avais ce petit truc en moi qui me disait, non mais attends... Voilà, faut que tu restes au boulot. Maintenant, on est 8 personnes dans l'équipe, donc j'ai quand même une équipe à manager, des mails à répondre et puis des rendez-vous à faire. Et surtout une entreprise à faire tourner. Mais en fait, c'est marrant, avant de partir au sol du sport, donc la semaine dernière, j'ai eu un gros down, parce que finalement, on en a aussi, on n'en parle pas souvent, mais j'ai eu un gros down.
Le podcast est fait
down,
pour ça, nous on dit tout, le bon, le mauvais, le plus joli.
Pour être très transparente, il y a beaucoup de up, je vais dire, de joie depuis le lancement de Respire. Mais il y a pas mal de down aussi, où j'en parle pas du tout, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, de soit rentrer en pleurs, soit me réveiller, pleurer, avoir une boule au ventre et me dire « je veux pas y aller
».
Et c'est pas normal en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, je pense que si c'est normal, c'est bizarre à dire.
Je sais ce que tu veux dire.
Mais voilà, c'est un moment où ça prend toute notre vie, au point qu'on n'en dort pas très bien, que forcément quand on dort mal, on est plus sensible, et qu'il suffit d'un tout petit truc pour nous faire flancher. Ouais. Et là, voilà. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé juste avant de partir à Vichy la semaine dernière. J'ai eu un trop-plein de choses qui font que j'ai un peu craqué. Et en fait, partir à Vichy et justement passer 4 jours avec ces athlètes qui sont mais des machines de performance, que ce soit physique et mentale, ça m'a reboosté et je me suis dit, mais tous, ils vivent leur passion à fond. Ouais. Et ils vont au bout de leurs rêves et à aucun moment, ils se disent, je manque l'entraînement parce que j'ai la flemme.
Ouais. Bah,
en fait.
Ouais.
Ils y vont parce qu'ils vont représenter la France. Ouais. La rigueur, la passion, la détermination. Et je suis rentrée de Vichy et j'étais plus motivée que jamais à me remettre dans Respire à 1000%.
Ouais. Voilà. Mais c'est trop important ce que tu dis en fait, parce que genre, je trouve quand on a un projet, qu'on soit entrepreneur ou voilà, freelance, et qu'en fait on adore ce qu'on fait et que du coup on a la tête dans le guidon et qu'on va sacrifier des moments plus de plaisir parce que non, faut faire tourner le projet, la boîte,
ouais.
En fait ça nous revient en pleine tête et c'est super dur parce que en fait toi j'imagine que ça se trouve que tu l'avais même pas anticipé ce breakdown et que heureusement que tu avais Vichy derrière parce ouais. qu'en fait ça a été genre le truc pour respirer et... Je demande, bien trouvé. Mais vraiment cette espèce de souffle d'air et aussi de se dire ben non, je peux m'accomplir ailleurs et la vie ne s'arrête pas qu'à ma boîte. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et en fait, même moi, j'ai du mal parfois, tu vois, parce que parfois, enfin, on a tellement aussi envie de faire avancer notre projet qu'on se dit ben non, je vais pas faire ce truc qui en soi est très cool, mais qui m'apporte pas quelque chose directement pour ma boîte. Ouais. Alors qu'en fait, je crois vraiment à cette espèce de nourriture, tu vois, de l'âme ou de l'esprit quand on a un projet. Et qui vient pas forcément de ce qu'on fait. Justement, tu vois, faut aller voir autre chose, faut sortir, faut se dépenser. Et c'est pour ça que j'essaye de faire le moins de concessions possible là-dessus, mais c'est super dur, quoi.
Ouais, complètement. Non, mais c'est clair que ça nous nourrit, et puis, enfin, comme tu le dis, hein, ça nous nourrit et ça nous aide à avancer, parce que finalement, c'est ça, quand t'as la tête trop dans le guidon,
ouais.
et que tu prends pas le temps de...
Prendre du recul, en fait, hein, tout simplement.
Prendre du recul, complètement, ouais. et de ouais. respirer, comme tu dis si bien. c'est là où, en fait, tu tombe dans... Bah, c'est bête, hein, mais respire. Je l'ai créé aussi un peu avec mon instinct, avec ouais. mes envies. Et aujourd'hui, si je suis trop dans l'opérationnel et que je fais uniquement... Bah, ok, il y a des commandes, il faut les livrer. Ouais. Et c'est tout. Bah, en fait,
ton énergie, elle se draine.
Mon énergie, elle est là-dedans. Et surtout, je peux pas développer la vision de respire aujourd'hui. Et je m'épanouis plus si ouais. je fais que de l'opérationnel. Donc, c'est ça. Sortir et aller rencontrer d'autres personnes, échanger. C'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus beau dans l'entrepreneuriat. Depuis que j'ai lancé Respire, c'est vraiment les rencontres que je fais et les échanges. Franchement, je suis sûre que je vais sortir de ce podcast et je vais dire que c'était exceptionnel de parler avec Louise. Ça m'aura reboosté à fond, j'en suis persuadée.
Bah, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait, moi aussi, de rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est un des trucs que je préfère faire parce que c'est ça qui nourrit aussi, tu vois. C'est d'entendre le parcours d'autres personnes, d'entendre leur motivation. Enfin, toutes les histoires sont différentes et c'est grave beau, quoi. Mais du coup, c'est vrai que bah, déjà, en plus, oui, t'es assez jeune, donc ça doit être difficile à je trouve, toute la quantité quoi, qu'il faut surmonter. Heureusement, t'as une équipe. Et en fait, j'y pense parce que justement, hier, j'avais un café avec une femme entrepreneur, tu vois, qui est plus âgée que nous. Mais elle me disait qu'elle avait arrêté, du coup, sa boîte parce qu'en fait, c'était trop pour elle parce qu'elle était toute seule dessus. Et, et elle a déjà tenu au moins 2-3 ans, tu vois. Et donc, en fait, c'est trop cool que tu sois déjà entourée. Quand est-ce que t'as commencé à t'entourer? Est-ce que, genre, tu t'es vite rendu compte que c'était un besoin? Est-ce que ça s'est présenté?
Alors, déjà, on était deux dès le début avec... Okay. On est deux cofondateurs avec Thomas, du coup, mon associé, et qui est vraiment top. On est totalement complémentaires. On s'est rencontrés par amis d'amis. Donc, clairement, c'est un peu... Voilà, là, on a provoqué notre chance, hein, c'est le hasard du destin. On s'est rencontrés, on s'est hyper bien entendus. On s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes aspirations de vie. J'ai eu l'idée de Respire à l'époque, mais lui avait déjà l'idée de lancer une marque digitale. Donc un peu dans le même secteur que ce qu'on a lancé aujourd'hui. Et du coup, on échangeait vachement sur notre vision et on se rendait compte qu'on avait des visions qui étaient vraiment alignées. Mmh. Et donc, on a tout commencé à deux. On a essayé d'aller puiser un peu des conseils de personnes qui nous entouraient parce que clairement, voilà, il faut, comme on disait tout à l'heure, hein, les rencontres, on s'inspire des gens qui nous entourent. Et donc, on a commencé vraiment à deux depuis mars 2018.
Ok.
On a vraiment commencé en mars 2018.
Putain, ça fait... Tout juste, enfin un peu plus d'un an quoi.
À peine plus d'un an. Ouais.
C'est allé assez vite en fait. Hein.
Ah bah ça a été hyper vite.
Ouais.
Donc c'est ça, en fait on s'est rencontrés, bon on s'était déjà rencontrés en 2017, on n'avait pas encore parlé spécialement de lancer une boîte ensemble. Janvier 2018 on commence à échanger sur le fait de potentiellement lancer une boîte ensemble et en fait, hasard du destin, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Quand je me suis rendu compte que j'avais une boule dans la poitrine, donc sous l'aisselle droite, j'ai été faire des examens. On m'a dit que c'était une tumeur bénigne, mais quand même assez grosse, qu'il fallait la faire surveiller tous les 6 mois. Et surtout, on m'a parlé donc, des produits que je mets sur mon corps et des déos. Mais c'est un peu un hasard que le médecin, à ce moment-là, m'en parle.
Ouais.
Tout en me disant, je te rassure, je veux pas te dire qu'il y a un vrai lien, mais fais quand même attention à ce que tu mets sur tes aisselles au quotidien. Très bien. Donc ça a été un peu, tout d'un coup, un déclic dans ma tête. Et quand on parlait avec Thomas, je me suis dit, le déo, c'est peut-être un produit aujourd'hui qui est beaucoup trop opaque, on comprend pas vraiment ce qu'il y a dedans, il n'y a pas assez de déodorants sur le marché, en tout cas pas de déodorants naturels et vraiment efficaces. Et du coup, ça a été un déclic à nouveau. On a commencé vraiment à contacter des laboratoires à partir de mars.
Ouais.
On a développé tout le projet, on a fait la recherche et développement à fond avec le labo qui s'y connaissait déjà bien en déodorant, donc c'était vraiment bien de s'accompagner des bonnes personnes, avec une docteure en pharmacie, Véronique, qui nous a clairement accompagnés de A à Z. On a développé cette formule. C'était drôle parce que la formule était à la base avec du beurre de karité et du bicarbonate de soude. Et en fait, tout d'un coup, au bout de 4 mois, on s'est dit pas du tout, c'est un peu comme un lait et ça marche pas du tout. Et en fait, on a reviré à nouveau un peu une chance du sein de se dire d'un coup, mais ça marche pas, il faut changer avant de lancer ça. Et du coup, on est parti sur de l'aloe vera avec du romarin et c'est beaucoup plus frais en fait comme déo. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir fait ce move in extremis, et j'en suis trop contente. Et du coup, on a lancé, quand on a trouvé la formule, on a lancé le crowdfunding du coup en novembre.
Ouais.
Et là, voilà, novembre, quand on l'a lancé le 5 novembre avec Thomas, on se disait, bon, ce serait bien d'en vendre 2000 ou 3000 sur le mois. On va faire de la com à fond, on met tout en place, on a notre communauté qui nous soutient, on va essayer de contacter de la presse et tout pour avoir de la visibilité pour en vendre 2000 ou 3000. Et bien, quand on a dépassé les 2000 en 24 heures, j'ai juste pas compris ce qui se passait.
C'est dingue.
On a atteint du coup les 21 000 en un mois.
Ouais.
Et ça a clairement été énorme.
Ouais.
Donc clairement, au bout de cette campagne, au bout d'un mois, là un peu le breakdown, hein, qu'on s'attend pas du tout, on s'attend à sortir le champagne et être trop heureux de tout ce qui se passe. Mais là en fait, non, tu prends une claque dans la figure parce que tu te dis, ok, là t'as une responsabilité énorme.
Faut les fournir.
Voilà, maintenant faut livrer tes 21 000 déodorants.
Ouais.
Donc là, tu te rends compte que tu viens de créer quelque chose qui en fait... pas juste un petit respire sur une page lue. C'est clairement, tu viens de créer, respire, et il y a 21 000 déodorants qui doivent être envoyés, et il y a des milliers de personnes qui en parlent.
Ouais.
Ok.
Je me demande juste, même avant la phase de com, c'est... Vous êtes donc deux, je sais pas quel âge a Thomas, est-ce qu'il a ton âge ?
26, un an plus que moi.
Et en fait, en mars, quand vous commencez à contacter les labos, vous toquez juste un peu comme ça à la porte des labos en présentant votre idée et ils vous rencontrent. Ils vous demandent pas... est-ce que vous avez dû les payer avant ? Est-ce que vous avez fait le pari de lancer ça avec eux ? Enfin, comment ça se passe ? Parce que souvent, les gens s'auto-censurent un peu en mode « Ah non, on va pas me prendre au sérieux ».
Alors ça, c'est vrai que oui, on dit toujours « Non, on va pas me prendre au sérieux ». On est deux petits jeunes avec l'idée magique de révolutionner l'industrie du déodorant. Clairement, on a contacté beaucoup de laboratoires. Il y a, en fait, c'est moitié-moitié. Il y a des laboratoires qui nous ont très très bien reçus et qui clairement trouvaient ça super de jeunes qui se lancent et qui ont envie un peu de moderniser l'industrie. Et t'en as d'autres qui ont l'habitude certainement de travailler pour ces grosses industries et du coup, qui nous regardaient en mode, non mais attendez, vous deux, croyez pas que vous allez faire des miracles. D'accord. Et en fait, on a eu la chance de travailler avec Véronique qui déjà a cru dans notre projet, a été touchée par mon histoire, et elle s'est dit qu'elle avait envie de nous accompagner. Alors clairement, on a investi un peu nos économies dedans, parce qu'on n'avait pas le choix, hein.
Ouais,
on
lance
pas une marque comme ça du jour au lendemain.
Comment vous l'avez rencontrée, Véronique ?
En fait, on a fait tellement de recherches. C'est simple, mais je pense que quand on a une idée, et qu'on la tient, et qu'on veut y aller, on devient... Alors voilà, j'ai pas fait d'études de pharma ni de bio, mais aujourd'hui, je connais peut-être tous les ingrédients de déodorant par cœur.
Ouais.
Je sais ce qu'il y a dedans, on apprend hyper vite. Quand tout d'un coup, on est passionné dans quelque chose. Et donc, quand on a eu en tête de contacter des laboratoires, on s'est énormément renseigné, on a rencontré des personnes de l'industrie des cosmétiques qui nous ont conseillé, qui nous ont dit comment rentrer en contact avec des labos. Et nous, on a fait toutes nos recherches quoi, sur Internet. De toute façon, notre meilleur ami, c'est Google. Hein.
Bah ouais.
Sur en Google, tu tapes laboratoire façonnier de déodorant, clairement, t'en trouves plein. Et après, c'est pas facile parce que ça coûte de l'argent. Il faut avoir un brief très précis, entrer en contact avec ce laboratoire, il faut savoir comment s'y prendre. Il y a plein de steps quand même différents. Et j'ai la chance que Thomas, mon associé, avait déjà lancé une boîte avant, qui était en tech, B2B, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais il avait déjà cette expérience business que je n'avais pas.
Ouais.
Et ça nous a clairement aidé parce que Je pense que moi, j'arrive vraiment dans notre entreprise aujourd'hui, dans notre marque, comme étant la personne un peu naïve. Je joue beaucoup à l'intuition. Mmh. Et lui, il est, même si c'est un visionnaire et qu'il a plein d'idées, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus business et beaucoup plus structure que moi. Donc en fait, on se complète énormément là-dessus. Et du coup, quand on a contacté ces labos, on a commencé à travailler avec quelques-uns qui avaient confiance en nous. Et en fait... Véronique, le choix d'être avec elle s'est fait hyper vite parce qu'elle était super réactive.
Ouais.
Elle écoutait vraiment ce qu'on voulait dans ce déodorant. La formule, elle évoluait très vite. Et on sentait qu'on allait très vite vers quelque chose qu'on aimait bien. En soi, on a été quand même assez vite. Parce que 9 mois pour créer une formule de déodorant... Bon, 9 mois, c'est sans compter tous les tests réglementaires. Normalement, un déodorant, voilà, pour le mettre sur le marché, c'est 1 an et demi.
Ouais.
Et clairement, elle nous a vraiment aidés. Elle a été très réactive et ça, c'est... Je pense que d'autres laboratoires peuvent être comme elle, mais c'est pas donné à tout le monde.
Ok, donc en fait, la docteure en pharmacie était associée au laboratoire que vous avez choisi.
Ah, elle travaille, c'est son laboratoire.
D'accord.
La docteure en pharmacie, c'est son laboratoire en fait.
Ouais, ok, donc je comprends mieux. Okay.
Ouais. Du coup, non, c'est ça, c'est son laboratoire. Donc on faisait la recherche et développement dans son laboratoire avec ses équipes et on produit même chez elle. Donc en fait, aujourd'hui, elle a fait aussi un pari sur l'avenir parce que quand elle a commencé à travailler avec nous, voilà, elle voyait en nous un peu des étoiles dans les yeux en se disant non, mais on a quand même beaucoup d'ambition. Mais je pense qu'elle s'attendait absolument pas à ce que ça explose sur un crowdfunding et qu'on fasse 21 000 d'euros en un mois. Et je me souviendrai toujours, quand on a fini ce crowdfunding, je pense qu'elle le suivait un peu, mais qu'on lui a envoyé le mail pour lui dire bon, bah voilà, Véronique, le crowdfunding est terminé, on a vendu 21 000 déodorants, il va falloir commencer la production. Je me souviens de son mail qu'elle a répondu, elle avait juste écrit youhou en majuscule avec plein de points d'exclamation.
Ah, ça va, elle a vu le positif, elle a pas vu la tonne de déo qu'elle avait à produire.
Ah non, elle a juste vu que c'était, bah ouais, elle
a un dit, succès dire, commercial.
C'est incroyable, c'est incroyable parce que ça marche quoi.
C'est trop
donc,
cool.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir le crowdfunding et Ulule en particulier?
Alors le crowdfunding, c'était un peu... En fait, on nous en avait pas mal parlé. Les entrepreneurs, c'est un peu un choix qu'ils font d'aller sur le crowdfunding. Moi, j'ai 3 points, en fait, que j'ai en tête toujours sur le crowdfunding, ce que ça apporte. 1, ça permet de faire connaître ta marque dès le début, genre facilement sur une plateforme où les gens ont déjà confiance. Ça permet de donc, créer de la notoriété. Ça permet de jauger l'intérêt du marché. Parce qu'en fait, si les gens ont envie de te soutenir et aiment ton projet, ils te le disent et ils contribuent.
Ouais.
S'ils n'aiment pas, ils ne contribuent pas. Et 3, ça permet de financer la production.
Ouais.
Et ça, on n'avait clairement pas les moyens de financer la production dès le début, même si j'ai pris un peu d'argent chez mon papa, chez ma maman. Enfin, c'est marrant, hein, mais on va chercher nos proches et genre, on demande de l'aide et la love money. Voilà, et puis, mais voilà, les proches sont prêts à nous aider et c'est ça qui est génial aussi. Hein, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu qu'avant. Et,
c'est vrai.
Et en fait... Tout le monde, en général, la société en général, fait plus confiance aujourd'hui dans les entrepreneurs.
Ouais.
Donc, on a eu cette chance-là. Mais voilà, le crowdfunding nous a permis de financer la première production. Et du coup, c'était un bon move de se dire, voilà, le go-to-market, maintenant que la formule elle est choisie, on a 6 mois de tests réglementaires qui restent, plutôt 4 mois de tests réglementaires encore à valider. Il faut aller sur le marché rapidement. Donc, le crowdfunding, c'est le meilleur moyen. Ça nous a permis de lancer en novembre et de ne pas attendre le mois de mars avant de lancer notre e-shop.
Ouais.
Finalement, ça a été le mois de mai, même, notre lancement officiel. Et pourquoi Ulule? En fait, après, il y a plusieurs crowdfunding qui existent. Et on a fait le choix de les contacter et de se dire, bah, on a envie de les rencontrer parce que finalement, on a envie que... Voilà, quand le crowdfunding, en fait, ils prennent quand même 8% de nos ventes.
D'accord.
Donc, le crowdfunding gagne si on vient sur leur plateforme. Et on s'est dit, bah, autant aller les rencontrer et voir ce qu'eux nous apportent.
Carrément.
Et Ulule a... était super dès le début, ils nous ont rencontrés rapidement et ils nous ont tout de suite associé un accompagnateur de projet. Donc ça, tout de suite, on a l'impression d'avoir quelqu'un dédié à nous, qui nous accompagne, qui nous donne des conseils, qu'on peut contacter, mais quotidiennement, qui sera là pour nous aider. Et si elle n'est pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui nous répond, donc c'est assez agréable.
Ouais.
Et en plus, ils nous ont accompagnés tout au long de la campagne. Et aujourd'hui, mais si j'ai encore quelque chose à leur demander, voilà, ils n'hésiteront pas à répondre et à m'aider.
C'est trop cool.
Et donc ça, c'est génial parce que toute la campagne, ils nous ont accompagnés et c'était assez dingue parce qu'on était 2 du coup.
Ouais.
Donc toute cette préparation de campagne, c'est une préparation quand même assez énorme, sur toutes les cases à cocher et se dire, ok, mais il faut absolument que tout soit prêt pour le lancement le 5 novembre.
Ouais. Vous l'aviez prévu combien de temps à l'avance, le lancement?
Depuis mi-septembre, on travaillait vraiment dessus.
Ok. Vous êtes dit mi-septembre, on lance le 5 novembre et vous avez commencé à...
Mi-septembre, on s'est dit, on lance le 10 octobre.
Ah !
Sauf que fin septembre, on s'est dit, non mais jamais de la vie, on lance le 10 octobre en fait. Ouais. Faut faire des photos, faut faire une vidéo, faut faire des textes bien définis, faut avoir des partenaires qui nous aident. Enfin, fallait tout prévoir. En fait, ouais. C'est simple, mais le jour où on a lancé le crowdfunding, le 5 novembre, j'avais une roadmap toute prête et je savais... quel jour j'allais envoyer quelle news et à qui j'allais envoyer des messages et pourquoi.
Ouais.
Et en fait, comment j'allais activer des copines influenceuses qui allaient m'aider à parler du projet, comment j'allais activer la presse. Et en fait, après, c'est bah forcément, on ajuste parce qu'on n'arrive pas du tout à anticiper. Et quand je visais les 2000 en un mois et que j'ai fait 2000 en 24 heures, bah forcément, tous mes textes de news, ils ont été modifiés. C'était pas du tout ça, finalement. Mais en fait, on anticipe quand même, ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau pendant le crowdfunding parce qu'on est quand même sous l'eau avec tous les messages. Il faut répondre à cette masse. Tout d'un coup, on se dit, bah mince, tout d'un coup, je deviens un peu connue, quoi, quelqu'un. Genre, il y a beaucoup de monde qui nous envoie des messages et il faut gérer. Derrière. Et
vous n'aviez pas d'équipe encore à l'époque, j'imagine.
Alors,
c'était
à l'époque,
toi et Thomas,
on était Véronique, Thomas quoi. Et moi. Du coup, Ulule qui nous envoyait des petits reminds en mode « Je pense que là, il serait bon de faire une petite news à vos contributeurs pour leur donner quelques nouvelles. Ça fait une semaine et je pense qu'ils peuvent vous aider à en parler autour d'eux. » Donc en fait, ils nous donnent des petits tips aussi sur comment gérer la campagne.
C'est cool.
Et ça a vraiment été top. Ça a été un super accompagnement.
Ouais.
Il y a des moments où on a eu des soucis. Quand on a lancé la campagne, on s'est rendu compte que ça affichait... je me souviens plus exactement, mais il y avait une contribution, c'était 15 euros, et en fait, ça débitait 50 euros à nos contributeurs. Donc en fait, tout d'un coup, genre, panique à bord, on appelle Ulule, et en fait, ils ont été hyper réactifs. Donc ça a été vraiment un super choix à refaire. La seule erreur qu'on a fait sur le crowdfunding, parce qu'il faut toujours quand même, je pense qu'il y a toujours quelques erreurs, il faut les reconnaître, c'est d'avoir mis livraison février 2019.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, on faisait une promesse. On annonçait à nos contributeurs qu'on allait les livrer en février, mais... On imaginait vraiment, hein, on se projetait, on se disait en février on sera prêt à livrer. Mais en fait, il vaut mieux prévoir large parce que février on n'était pas du tout prêt. Une fois que le crowdfunding est terminé, on a tellement pris la sauce pendant un mois, genre tout dans la figure, que là maintenant il faut tout structurer, se dire ok, maintenant il faut être prêt à livrer. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas de notre sort. Validation des tests réglementaires, l'impression des étiquettes, enfin tout en fait, toute la prod, c'est vraiment des choses alignées et c'est pas produit dans notre cuisine, donc c'est pas que nous qui.
C'est pas des biscuits.
Voilà, c'est pas des biscuits. Et puis clairement, il y a quand même. C'est pas une industrie derrière, mais il y a quand même un laboratoire, un logisticien, un conditionneur. Donc voilà, tout ne s'enchaîne pas exactement comme on veut. Et du coup, on a pris du retard. Et ça a été difficile parce que à partir de février, du coup, on a commencé à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui nous demandaient où en est ma commande, quand est-ce que je serai livrée. Et du coup, ça nous a. Voilà, ça nous a mis le pied, voilà, dans les premières étapes du SAV, où en fait, il faut savoir gérer les clients.
Carrément.
Et ça, j'ai complètement découvert. Moi, j'étais habituée aux petits messages sur Instagram, sur LinkedIn, des messages de bienveillance de ma communauté. Mais tout d'un coup, voilà, c'est des contributeurs, même s'ils sont vraiment bienveillants.
Ouais.
Bah, il y a plein de messages de « j'ai commandé, j'ai payé, je veux recevoir mon produit ».
Ouais.
Et là, il faut commencer à gérer. Et voilà, on a mis les premiers pieds dedans et finalement, on a livré au mois de mai et... Heureusement, on n'a eu que des bons retours. Franchement, sur les 21 000, il n'y a personne qui a demandé à se faire rembourser.
Bah, ça, c'est un gros succès.
Donc,
hein.
Quand même, avec 3 mois de délai,
bah,
je remercie clairement ma communauté et les contributeurs qui sont bienveillants et qui sont compréhensifs.
C'est trop cool.
Et ça, c'est chouette.
Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de lancer cette campagne ?
Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant ? J'aurais aimé savoir que ça pouvait aller aussi vite.
Ouais.
Parce que ma campagne, du coup, elle a été lancée le 5 novembre. On est aujourd'hui, quoi, le 26 juin ?
Ouais.
Ouais, quelque chose
ouais
comme
c'est
ça.
Exactement ça.
Voilà, on est le 26 juin. Et bah, ça va trop vite. Ça va très, très vite.
Ouais. T'as pas vu le temps passer, là, entre novembre et juin ?
Je vois pas le temps passer. Ouais, je vois pas du tout le temps passer. Je vois un peu l'ampleur que ça prend, même si bah, j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre et de ne pas partir la tête dans les nuages parce que ouais, faut rester très terre à terre.
Ouais.
J'essaye parfois de ne pas trop m'informer sur les chiffres, les ventes, parce qu'en fait, ça peut aussi monter à la tête et ça peut aussi stresser.
Voilà, c'est anxiogène.
Au niveau de la responsabilité, c'est anxiogène.
Ouais.
Donc en fait, je reste aussi... Voilà, j'aime garder un peu mon côté de naïve qui continue à suivre son instinct et tout en essayant voilà, d'être quand même très structurée et de prendre tous les bons conseils des meilleurs entrepreneurs. Mais voilà, ça va très vite et j'aurais aimé que quelqu'un peut-être me chuchote dans l'oreille.
Prépare-toi.
Prépare-toi parce que À partir de maintenant, c'est un sans fin.
Ouais, et heureusement que t'avais couru un marathon déjà, parce que au moins, t'avais une petite comparaison.
Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais même pas où j'en suis dans le marathon, quoi. La ligne d'arrivée, ouais. elle est pas là. Et ouais. pour moi, ma ligne d'arrivée, elle est beaucoup plus loin, en fait.
Ouais. Donc, bon, c'est ça qui est beau aussi, hein.
Voilà.
Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, en fait.
Ah, mais complètement. Ouais. Aujourd'hui, je suis que dans les 5 premiers kilomètres. C'est que le début. Et il va falloir tenir.
Il va falloir tenir le marathon, c'est clair.
Tenir le marathon, et j'ai plein d'idées, j'ai des ambitions énormes. Thomas aussi, on est vraiment main dans la main. On a aujourd'hui formé une équipe, du coup, avec des personnes qui sont exceptionnelles. Y a Beryl, il y a Camille, enfin, je pourrais tous les citer, mais ils sont exceptionnels, ils font partie de l'équipe. Et aujourd'hui, ils partagent la vision et ils nous donnent plein de super inputs, plein de super idées. Et clairement, c'est des valeurs ajoutées à Respire qui sont énormes. Parce qu'au quotidien, ils nous aident à développer la marque, à répondre à notre SAV, à répondre à notre communauté super bienveillante, à gérer tout ça, gérer ce flux de tout ce qui se passe. Parce que finalement, dans une entreprise, voilà, je pense que j'aurais aimé qu'on me chuchote « Prépare-toi, ça va aller très vite », mais aussi « Prépare-toi parce que t'es pas prête à tout ce qui va se passer. » T'es pas prête qu'il y a autant de choses à gérer et qu'il va falloir... pas être bonne en finance, en marketing ou j'en sais rien, mais il va falloir être bonne en tout. Il va falloir être couteau suisse. Voilà. Il va falloir savoir tout gérer. Et même si tu ne sais pas tout faire, parce que clairement, personne n'a la science infuse.
Ouais,
aujourd'hui, nos compétences, on les a un peu avec les écoles de commerce qu'on a fait. Moi, j'ai fait HEC Montréal, Thomas a fait HEC Paris. Du coup, on est tous les deux quand même. On a des compétences d'école de commerce que n'importe quel étudiant qui sort d'école de commerce a. Mais on marche à notre instinct et ensuite il faut se dire qu'on s'entourera des meilleures personnes. Parce qu'autour de nous, on a tous des personnes qui sont extrêmement compétentes dans chacun des domaines qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça qui est exceptionnel en fait aujourd'hui, c'est de je sais pas comment je vais dire, mais de tous se mettre ensemble et vraiment de fusionner toutes ces compétences différentes qui permettent aujourd'hui de créer, respirer et de le faire développer de plus en plus.
Et d'avancer encore plus loin, ouais. C'est vraiment ça l'avantage d'une équipe.
Ouais.
Bon, Justine, il est l'heure fatidique. Parce qu'avec Justine, on avait prévu moins de temps qu'il nous fallait. Donc du coup, franchement, je pense que là, on est parti sur une partie 2.
Donc, une partie 2.
Donc on va faire comme le petit jingle de la pub et on se retrouve très bientôt. Et Justine est ensuite revenue quelques semaines plus tard pour enregistrer la partie 2. Et comme à mon habitude, comme la conversation qu'on commençait à avoir quand elle est arrivée était, je trouve, très intéressante, j'ai juste choisi d'allumer le micro pour vous partager notre conversation. Donc tu disais tu coupais Insta.
Donc ouais, pour les vacances j'ai coupé Insta pendant un moment 24 heures, je me suis dit j'arrête d'aller dessus.
Ouais.
Parce que y a un moment tu te dis faut quand même réussir à couper. Et en fait Instagram c'est devenu tellement mon outil de travail où je communique beaucoup sur Respire. En fait quand je suis en vacances je me suis sentie le besoin de déconnecter et de pas être en train de aussi raconter mes vacances.
D'accord.
Mais alors qu'en fait, quand t'es en vacances, tu fais des trop belles photos et j'avais envie de les partager.
Ouais.
Mais en même temps, je me suis dit, ça va me faire du bien. Donc en fait, sur 12 jours de vacances, il n'y a qu'un moment où j'ai coupé et j'ai partagé un peu parce qu'il y avait des endroits trop beaux, forcément.
Ouais, et tu te dis, bon là, quand même.
Ouais, mais parfois, tu vois, je m'oblige un peu à aller ouvrir tous les messages, même si parfois c'est tellement de bonnes ondes que ça donne envie de les ouvrir.
C'est vrai.
Mais il y a des moments où je me force pendant une demi-heure ou même une heure à aller répondre à tout le monde. Bah là, pendant les vacances, je coupais un peu et je me forçais pas trop, quoi.
Ouais, c'est difficile de trouver un équilibre, je suis d'accord, parce qu'en fait, ça t'apporte beaucoup de positifs.
Ouais.
Mais d'un autre côté, je pense, pour le mental,
c'est t'as besoin de vivre dans le présent, besoin de vivre dans le physique, et c'est vrai que le digital. Même si ça t'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est ça, il y a un moment, il faut réussir à déconnecter un petit peu. Et pour le boulot, pour le coup, j'ai pas réussi à déconnecter pendant les vacances. Forcément, il y a une équipe, on a des mails qui avancent. Et je me suis dit, si pendant 12 jours, je check pas mes mails, quand je reviens après 12 jours, je vais mourir. Donc en fait, j'ai checké tous les jours et c'était cool de voir ce qui se passait et de suivre et de m'assurer que tout aille bien. Et c'est marrant, mais du coup, quand je suis rentrée, en fait, ça m'avait hyper manqué. J'avais trop hâte de revenir.
Ouais,
je suis revenue encore plus positive, quoi.
Ouais, mais je suis d'accord. Bon, en plus. Genre, bah, je réécoutais, c'est la première partie du podcast, vu qu'on se revoit après la pub. Avec Justine, on a fait la première partie, et en fait, vu qu'après, elle devait partir, et que nos deux emplois du temps étaient chauds à compatibiliser, voilà, on se revoit un mois plus tard, mais c'est très marrant. Et du coup, donc, j'écoutais, ça fait que, 9 mois que t'es dans l'aventure en soi entrepreneuriale. Ouais. Et bon, pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs, beaucoup disent les 2-3 premières années, même limite, tu prends pas de vacances, et c'est un peu normal d'être dans cette dynamique. Après, c'est important temps de s'en faire la part des choses, mais je pense qu'on a quand même un laps, tu vois, de temps avant de vraiment avoir besoin de prendre, tu vois, 2 semaines off total. Ce que font les entrepreneurs, tu vois, comme Guillaume Guibaud, le fondateur du slip français, ouais. Tu vois, aujourd'hui, il peut prendre 2 semaines de vacances, vraiment total, il sait ouais. qu'il y a son équipe qui gère et il revient ouais. et voilà. Mais au début, c'était pas ça et je pense que c'est aussi la beauté du début où, de toute façon, toi-même, t'es trop pris par le truc, quoi.
Ouais, après, pour le coup, c'est vrai que maintenant, de plus en plus d'entrepreneurs que je rencontre me disent ne fais pas l'erreur de ne pas prendre de vacances. Okay. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se disent rien que parce qu'ils lancent un truc, il faut jamais couper. Et il y en a beaucoup qui reviennent dessus après 3 ans et qui disent bah, l'erreur que j'ai fait, c'est jamais prendre de vacances. Et moi, j'ai la chance donc, d'être associée à Thomas qui avait déjà monté une première boîte. Ouais. Et en fait, lui, il m'a dit ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas prendre des vacances notre premier été. Alors qu'en fait, en juillet-août, ça se calme. Mmh, et du coup, bah, là, ce qu'on a fait avec Thomas, c'est qu'on s'est vraiment dispatché. Moi, je suis partie 2 semaines en juillet à un moment où j'en avais vraiment besoin. C'était critique. Il y avait eu des trucs de haters sur les réseaux sociaux. Il avait fallu que je passe à autre chose, donc je me suis barrée.
C'était avant ou après qu'on se soit vus ?
C'était juste après.
Ah ouais ? Raconte-nous un peu. Dis-nous les petits potins d'Instagram.
Non, c'était, alors, c'était pas Instagram, c'était LinkedIn.
D'accord.
Donc, ouais. Et en fait, ça fait un petit bout de temps. Bah, on avait eu, en fait, j'ai eu 2 articles qui sont sortis qui m'ont fait mal au cœur, mais je pense que c'est normal quand on commence à avoir pas mal de notoriété.
C'est proportionnel. Plus t'as de gens, plus t'auras de haine aussi, et plus de positif, mais la haine arrive, ouais.
C'est ça. Et du coup, j'ai eu donc 2 articles qui m'ont fait mal au cœur. Alors, le premier, ça a été, il a été posté en novembre, quand j'étais en plein milieu du crowdfunding. Donc, pour le coup, ça m'a pas. En fait, c'est que ça m'a moins touchée parce que c'est un article qui est complètement faux. En fait, l'article dit le déodorant Respire, c'est le copier-coller du déodorant Ushuaïa. Donc en fait, la manière dont c'est formulé, si t'es un consommateur qui regarde pas spécialement les listings qui, enfin les formules, plutôt les ingrédients sur le pack cosmétique, bah tu peux y croire. Mais si tu regardes, il suffit de comparer directement les 2 formules et tu te rends compte qu'il y a un ingrédient qui est similaire et ensuite il y a quelques allergènes similaires qui sont dus aux huiles essentielles. Donc ça n'a rien à voir. Donc en fait, cet article ne m'a pas trop touchée jusqu'à ce qu'il commence à ressortir et qu'il y ait les consommateurs qui commencent à y croire en partageant publicité mensongère, Respire, allez lire cet article. Et là, je me disais, c'est pas possible en fait.
Donc les gens peuvent y croire.
Ouais, mais en fait, c'est que j'avais pas pris la parole dessus. Je m'étais pas manifestée. Pourquoi ? Parce que sur LinkedIn, il y a une différence aussi avec Instagram, c'est que sur LinkedIn, quand tu commentes un article ou que tu likes ou quoi, bah en fait, cet article se rend visible pour toute ta communauté. Donc je savais que si j'allais commenter cet article-là, c'était montrer à toute ma communauté, regardez, allez lire cet article. Donc je n'avais pas commenté, et puis j'ai fini par prendre la parole dessus en recommentant les commentaires des gens, en disant, non mais attendez, faut quand même ouvrir les yeux là-dessus, c'est vraiment ça, c'est faux en fait, c'est faux et c'est injuste même pour moi, parce qu'écrire ça, ça veut juste dire, je veux descendre un peu, respire. Mais j'ai pris contact avec la personne qui l'a écrit, et puis j'ai compris qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et qu'on n'avait pas les mêmes visions de la cosmétique d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a un 2e article qui est sorti. Là, donc, c'était plus récent. Et en fait, qui parle de la crème solaire. Donc, la crème solaire naturelle et minérale qu'on a sortie cet été. En fait, en disant que cette crème solaire ressemble comme 2 gouttes d'eau à une autre formule d'une autre crème solaire, d'une marque qui s'appelle Praia, qui n'est pas très, très connue. Et en fait, en creusant un peu, je me rends compte que mon laboratoire, nous, en fait, on n'a pas les moyens financiers aujourd'hui d'acheter une formule qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a soumis le brief à notre laboratoire en disant « on veut développer une crème solaire qui soit comme ça, comme ça, comme ça », ils étaient déjà en train de travailler sur une formule et nous ont dit « on a cette formule-là, est-ce qu'elle vous plaît ?» Donc en fait, on l'a travaillée ensemble, on l'a testée et pendant plusieurs mois, on a fait des allers-retours où on l'a développée. Mais cette formule ne nous appartient pas. Donc aujourd'hui, elle a été commercialisée aussi sous une autre marque. En soi, ce qui n'est pas un problème majeur, parce que moi, je me dis que si un maximum de personnes aujourd'hui ont accès à des formules « bonnes » entre guillemets et de qualité, bah, j'ai tout gagné. Donc, qu'elles soient sous le nom Respire ou sous un autre nom, tant mieux, ça fait parler de plus en plus de ces crèmes-là. Sauf qu'en fait, cet article est sorti et il y a des gens qui se sont sentis trahis en se disant « encore une fois, publicité mensongère, cette crème solaire n'est pas unique ». Et donc, cette fois, ça m'a fait très très mal au cœur parce que au début, j'ai pas réagi, ça a été posté le vendredi. Puis tout le week-end, il y a des gens qui ont commencé à surenchérir en mettant des commentaires, en faisant, bah forcément, Respire, ça a fait le buzz sur les réseaux, donc pourquoi pas un petit bad buzz derrière. Et donc tout le monde a commencé à commenter en me taguant pour que je réagisse. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'étais en mariage ce week-end-là d'une très bonne amie, et le dimanche matin, je me réveille, donc forcément un peu fatiguée du mariage de la veille, et mon père m'écrit, et des gens lui avaient, en fait, avaient contacté mon père sur LinkedIn en disant, monsieur, il faut que votre fille, Justine Hutto, réponde. Alors là, je me dis, dans quelle mesure on est en train de mettre mon père dans l'histoire pour lui demander que je réponde ? Laissez-moi tranquille, en plus on est dimanche, enfin, il y a un moment, je veux bien qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sur les réseaux sociaux, mais on a aussi une vie. Ouais. Et ça m'a fait très mal au cœur, du coup, C'est marrant parce qu'on m'avait déjà parlé de la notion du bad buzz, toute cette gestion-là. Je sais pas si tu connais le youtubeur Gonzague.
Non, pas du tout.
Gonzague TV, c'est un youtubeur qui est pas mal connu, mais ouais. Qui est plus les années avant nous quand même. Il a lancé sa chaîne il y a un petit bout de temps. Bref, je l'adore, il fait des caméras cachées, il est trop marrant.
Ouais.
Et Gonzague, je l'avais rencontré et je l'ai revu plusieurs fois, et m'avait toujours expliqué un peu la gestion du bad buzz. Il est un peu pro là-dedans. Et il m'avait dit, surtout, quand tu dois réagir à un bad buzz, tu réagis une fois, tu rédiges un texte vraiment que tu as rédigé avec les personnes qui t'entourent, un texte qui, en fait, où tu te justifies, enfin, tu réponds voilà, à ce bad buzz sans non plus trop te justifier, tu le postes une fois ou plusieurs fois, mais tu ne redébats pas derrière. Si des gens relancent, bah, tu vas pas te rejustifier derrière, tu auras donné ta réponse.
T'as déjà tout dit quoi dans un post.
Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé Thomas, mon associé, on a rédigé ensemble, ce dimanche après-midi, par téléphone, notre petit texte. Moi, j'avais mal au cœur comme tout, parce que, bah, en fait, maintenant, quand... N'importe, enfin maintenant, même avant, quand on attaque Respire, pour moi on attaque Justine. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, enfin je le poste, et en fait, je savais qu'en postant ma réponse, je donnais une visibilité monstrueuse à cet article. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 46 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, donc ça fait 46 000 personnes qui peuvent voir l'article. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Dans les deux jours qui ont suivi, ça a fait effet boule de neige. Cet article a eu je sais pas combien de dizaines de milliers de vues, mais au moins j'ai eu tous les défenseurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, de Respire, toutes les personnes bienveillantes qui me soutiennent depuis le début, qui ont commenté cet article en me protégeant, entre guillemets, en me rassurant et en montrant que c'était pas du tout un big deal. Et en fait, c'est ça, je pense, la plus grosse part des choses à avoir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est de faire la part des choses entre bah, le côté bienveillant où en fait c'est plusieurs milliers de personnes qui nous soutiennent au quotidien et puis deux personnes qui vont poster des articles qui vont nous détruire. Et là, ça c'était juste avant du coup mes vacances que j'ai pris là, mi-juillet, où en fait j'ai pris une grosse claque dans la figure et je tenais plus en fait, je dormais mal, le soir j'arrivais pas à m'endormir parce que je pensais à ces articles, je pensais à des messages malveillants que j'avais pu lire, qui me faisaient mal au cœur, je me disais mais qu'est-ce que je fais là-dedans en fait, il y a des gens qui me croient pas, comment je vais faire pour leur redonner cette confiance et leur prouver que bah, je suis quelqu'un d'honnête et que j'ai pas du tout envie de trahir qui que ce soit. Et c'est ça qui est difficile, et en fait je suis partie en vacances, j'ai écouté beaucoup de personnes qui m'ont conseillé, j'ai écouté des podcasts. Et en fait, je me rends compte que bah, tout le monde passe par là, dès qu'on a un peu de notoriété, et qu'il faut savoir réagir, mais aussi se créer cette carapace qui fait qu'on va pas être abattu dès qu'on va avoir un commentaire négatif.
Ouais.
Mais d'ailleurs, je veux bien que tu m'en parles, Louise, parce que je suis sûre que t'en as déjà vécu.
Ouais, mais alors, en fait, tu vois, je pense, j'y pense, enfin, je le dis en réfléchissant moi-même, donc il n'y a pas de vérité absolue, mais je pense déjà, quand il y a le côté business... Il y a une autre dimension où les gens vont encore mettre plus de haine parce qu'il y a ce côté, elle fait payer quelque chose. Parce que donc personnellement, j'ai expérimenté forcément un peu de haine sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je pense que j'ai de la chance parce que je partage un message assez positif, honnêtement, c'est une minorité.
Ouais.
Comme j'ai commencé sur Instagram et que je suis principalement sur Instagram, là aussi, c'est des gens qui choisissent de suivre.
C'est plus bienveillant sur Instagram.
Donc c'est plus bienveillant. Ouais. Après, depuis que j'ai YouTube, depuis le début de l'année dernière... j'ai dû faire face à plus de haters parce qu'en fait sur YouTube les gens peuvent arriver sur ta vidéo alors qu'ils ne te suivent pas et donc en fait se déchaîner alors qu'ils connaissent pas ta personnalité, ils connaissent pas forcément ton message et tout. Et c'est vrai que moi aussi plusieurs fois j'ai eu du mal. Alors je me souviens notamment, tu vois, rien qu'en en parlant je viens de me souvenir, une fois il y a peut-être une personne qui a laissé un texte de 20 lignes sur pourquoi il m'aimait pas. Et en plus, hyper méga poussé. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est que la personne avait l'air, pour le coup, de me connaître, parce qu'en fait, il utilisait, je crois que c'était un homme, des exemples de plein de trucs de vidéos, en mode, à un moment, t'as fait ça, t'as fait ci, et ça prouve que t'es comme ça, que t'es comme ça, et qui, en fait, à la fin, disait que j'étais, une ordure, quoi. C'était ma soeur jumelle qui était tombée dessus à la base, parce que moi, je vois pas forcément tous les messages, et elle me dit, putain, violent, tu vois. Et c'est vrai que ça peut faire mal, parce qu'en fait...
Ouais.
En plus, quand tu vois que la personne a fait des recherches, tu te remets un peu en question. Mais je pense vraiment, et c'est parfois même des messages de personnes qui m'ont fait réaliser ça. Un autre message d'une personne, pour le coup, qui était très bienveillante, mais qui me disait, au début, je suis tombée sur ton profil. Et en fait, très rapidement, tu m'as énervée. En fait, j'avais l'impression, elle me disait que t'avais tout ce que j'avais pas, que t'étais arrivée à un stade où t'étais bien dans ta peau alors que moi j'avais énormément de mal, que t'étais dans l'école que je voulais faire alors que moi je l'ai pas eu, que ceci, que cela.
Okay.
Et je te trouvais arrogante, je te trouvais
nanana. Un peu de jalousie quand même.
Voilà, et en fait elle me dit, et en fait je suis retombée sur une de tes vidéos il y a quelques semaines, et en fait je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, c'était juste que je projetais, tu projetais ce à quoi moi j'aspirais, et en fait j'étais juste reproché quelque chose que moi j'arrivais pas à prendre en main. Et en fait j'ai trouvé ça hyper cool. courageux de sa part, parce que déjà, le reconnaître, c'est pas toujours facile.
C'est ouf.
Et moi-même, ça m'a fait réaliser que sûrement, d'autres messages de haine, c'est au fond ça. Et moi, j'entends beaucoup aussi des gens qui disent les personnes qui vont critiquer, c'est juste des personnes jalouses, mais au début, t'y crois pas trop quand ça te concerne. T'es là genre, non, ça se trouve, je pense pas. Mais en fait, si, c'est une forme de jalousie comme une autre, que ce soit juste la peur, le fait que ce soit plus facile de critiquer que de soi-même agir. Mais je pense que c'est comme dans une relation, quand ça marche pas, c'est qu'avant tout, il y a un problème avec la personne elle-même. Donc, c'est pas facile, mais de toute façon, comme tu dis, faut se créer une carapace. Et moi, ça m'intéresse parce que du coup, tu me dis que t'as été pas mal conseillée. Et ça, je me demandais à la fois, toi en tant qu'entrepreneur, et à la fois aussi pour tout le développement de Respire, est-ce que t'as fait appel à des gens pour t'aider? Comment est-ce que t'as rencontré ces personnes? Je crois que t'avais rencontré une amie à moi qui est Fanny Péchoda.
Oui!
Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'au final, t'as essayé un peu comme ça de t'entourer de personnes qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé?
C'est vrai que depuis le début, on m'a toujours dit qu'il fallait bien s'entourer. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours en tête. Quand on me demande un conseil pour les personnes qui veulent se lancer, c'est bien s'entourer, parce qu'on n'a clairement pas la science infuse. Et c'est les autres personnes qui ont déjà vécu ces expériences qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que Fanny fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidée. Donc, fondatrice de My Little Paris, c'est maintenant de Seasonly. Et je l'ai rencontrée, c'est un peu un hasard. En fait, il y avait le lancement de la nouvelle huile de nuit de Seasonly. Et donc, j'avais été invitée au lancement dans leur bureau, qui sont hyper canons. Et j'y étais allée et en fait, j'ai rencontré Fanny ce soir. Alors, moi, j'étais hyper contente de rencontrer Fanny, j'avais trop hâte. Et en fait, elle connaissait déjà Respire. Donc, ça a été assez dingue pour moi de me dire « Waouh, elle connaît déjà Respire. »
Elle voit tout Fanny.
C'était en janvier. Enfin, c'était juste après le crowdfunding, quoi. Donc, ça faisait pas vraiment beaucoup de temps qu'on avait lancé. Et en fait, on s'est tout de suite hyper bien entendu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu besoin, Fanny, je lui envoie un mail, je lui envoie un message. Par exemple, j'ai eu un souci au niveau design à un moment quand on était en train de développer toutes les étiquettes de Respire, puis même la box. J'arrivais plus. Parfois, on a vraiment des doutes, je pense, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et j'avais beaucoup de doutes. Il n'y a pas de version... Enfin, en fait, il n'y a pas de version choisie vraiment du design. Il n'y a personne qui va te dire « il faut que ce soit comme ça ». C'est vraiment... en fonction de ta spontanéité et du coup le design, je trouvais que je n'étais plus du tout contente de ce que j'avais, j'étais en train de tout remettre en question et il fallait qu'on m'aide. Et comme je ne suis pas du tout designer dans l'âme ni créative et j'ai vachement de mal, je ne sais pas du tout dessiner, le choix des couleurs, j'ai vachement de difficultés, je suis hyper influençable là-dessus. Si quelqu'un me dit c'est beaucoup mieux en rouge, je vais le faire en rouge alors que c'est du thé vert et qu'il faudrait le faire en vert. Voilà, je suis hyper influençable et du coup j'avais vraiment besoin d'aide. Et à ce moment-là, j'ai écrit à Fanny et j'ai dit est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît, j'ai besoin de conseils. Je l'ai vu. Je lui ai montré mon souci dans lequel j'étais et elle m'a tout de suite dit « Contacte Héloïse, elle est top, elle a bossé avec moi, elle va savoir t'aider. » Et en effet, ça a été le jour et la nuit, quoi. À partir du lendemain, j'avais un message d'Héloïse, je l'ai rencontrée et ça a été génial. Et on a hyper bien bossé ensemble et puis maintenant, elle bosse toujours avec nous d'ailleurs. Donc Fanny m'a pas mal sauvée sur ce sujet-là. Ensuite, il y a eu un moment, après le crowdfunding, je voulais activer un peu la presse, les RP et tout. Je me disais, comment on fait? J'en ai aucune idée, les RP, on connaît pas les journalistes, on sait pas comment ça fonctionne. Et j'ai contacté Guillaume Gibault et je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? J'ai besoin de conseils. Et du coup, j'ai vu Guillaume, donc fondateur du site français, qui m'a donné des conseils, qui m'a dit comment lui fonctionnait. Donc lui, il m'a toujours dit que les RP, il les ait en interne. Nous, on avait fait le choix de travailler d'abord avec une agence, RP. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça a été très bien ensemble, mais je trouve que c'est super difficile de gérer les RP en externe, du coup. Alors que nous, on est interconnectés avec les RP, enfin en tout cas avec l'influence, par exemple. Et c'est super difficile de se dire qu'une agence externe va envoyer mes produits à une influenceuse, alors qu'en fait, moi-même, peut-être que je la connais.
Ouais.
Et c'est ça qui s'est passé à des moments, je me suis dit, mais en fait, il faut complètement qu'on le gère en interne, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se... En parallèle, d'envoyer presque aux mêmes personnes, ou alors de discuter avec les mêmes personnes. Et du coup, parfois, je me dis, j'aurais dû écouter Guillaume dès le début, quand il m'a donné ce conseil-là. Donc en fait, c'est vrai qu'on nous donne des conseils, après, on prend ce qui est bon à prendre ou pas. Et puis, on forge aussi notre expérience. Mais en fait, voilà, pour répondre à ta question du coup sur les conseils et m'entourer, je me suis toujours dit que je voulais rencontrer les personnes qui avaient déjà vécu ce genre de choses et je les ai contactées, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai contactés sur LinkedIn, que j'ai eu la chance qu'on me présente. C'est beaucoup plus facile à chaque fois d'avoir une présentation. On m'a fait rencontrer aussi Julie Chapon, la fondatrice de Yuka, l'application. Et c'est super intéressant d'avoir son retour parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quelle marque de cosmétiques comme Respire, dans notre brief, quand on envoie un brief à notre laboratoire, c'est... On veut être Yuka compliant. Donc en gros, on veut que notre produit soit excellent sur Yuka. Et c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, dans notre brief, il y a un truc qui s'est rajouté que les labos n'avait absolument pas il y a 3 ans.
Ouais.
Et qu'on est en train de les forcer à avoir des produits qui ont des super notes sur une application. Donc j'étais hyper contente de rencontrer la fondatrice de cette application, qui est en fait à l'origine de toutes ces démarches, tout ce process qui a complètement changé.
De transparence,
Et c'est ça, et cette démarche de transparence est incroyable. Donc c'est vraiment des personnes que je rencontre et qui m'aident à aller encore plus loin. Et surtout, quand t'es un peu dans l'entrepreneuriat, mais je pense que même toi, hein, parce que toi c'est de la créativité, c'est de l'entrepreneuriat au quotidien, de toute façon sur tes réseaux, dès qu'on te parle de quelque chose, t'as des idées à 10 000 dans ta tête, et en fait, plus t'échanges, plus t'as des idées, plus t'as envie d'aller loin, et donc tu te nourris de tous les échanges que t'as avec chacun. Et c'est vrai que, aujourd'hui, moi, il y a pas mal de gens qui m'écrivent, qui me disent « Ah, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aimerais beaucoup te rencontrer », alors j'essaye d'en rencontrer, mais c'est vrai que c'est hyper difficile, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi que je focalise 100% de mon énergie sur le développement de Respire. Donc, c'est pas facile d'aller rencontrer tout le monde, mais j'essaye au maximum. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé le Respire Club. Donc, on a toute une communauté d'ambassadeurs Respire qui viennent nous rencontrer de temps en temps. On en organise la fin août, il y aura à nouveau une session Respire Club. Et en fait, c'est des gens qui peuvent venir. Et dans ces ambassadeurs, il y a des gens passionnés d'entrepreneuriat qui, du coup, peuvent échanger avec nous.
Ouais.
Et donc, c'est plus facile de regrouper.
De centraliser.
Voilà, centraliser les rencontres avec certains plutôt que juste faire un café one-to-one à chaque fois. Parce que c'est difficile. Des journées de 50 heures. Quoi.
Carrément. Je vote pour qu'on essaie de faire passer une petite loi.
On change le calendrier, on change les horaires.
Vraiment. Et tu parlais du coup de LinkedIn. Alors que c'est vrai que tu vois, moi pour le coup, c'est peut-être le réseau social que j'utilise le moins.
Ouais.
Et au final, comme j'ai des projets entrepreneuriaux, je me dis, faut peut-être pas non plus le négliger parce que c'est vrai que c'est quand même une plateforme indispensable dans le monde professionnel.
Ouais.
Est-ce que toi, tu avais développé un peu ton LinkedIn avant Respire ou est-ce que c'est vraiment avec l'aventure Respire que tu as commencé à l'alimenter et comment tu as fait pour le développer autant, parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices.
Alors, LinkedIn, ça a été une énorme surprise pour moi.
Ouais.
Pour être honnête, je ne l'avais pas du tout développé avant. Moi, quand j'ai fini mes études, donc HEC Montréal, je me souviens de tous mes amis, tout le monde en classe, qui était uniquement en train de faire son LinkedIn, qui soit tout beau, faire des CV vidéo, faire plein de choses, en fait, pour que LinkedIn soit hyper top, faire des expériences professionnelles pour avoir des recommandations. Et moi, mon LinkedIn, il était vraiment pas développé. J'avais plein de relations, mais c'était toutes les relations un peu amicales d'école. Et j'avais 400 relations, je crois que c'était ça. Et début novembre, du coup, quand on a lancé le crowdfunding et qu'au bout de 4 jours, je me suis dit, OK, en fait, il faut qu'on active plus que juste Instagram, Facebook. Il faut que ça aille encore plus loin. On avait activé les mails avec tous les amis des amis, enfin, les amis des parents surtout. Les parents, c'est les meilleures personnes pour nous aider quand on lance un projet. Hein. Ils ont toujours plein d'amis à qui envoyer notre projet. Et en fait, je me suis dit, LinkedIn, je l'ai pas activé, mais parce que j'y croyais pas. En fait, c'est pour ça que je l'avais pas activé. Et j'y avais pas du tout pensé. Et puis, je me suis dit, je vais quand même poster notre fameuse vidéo de lancement sur LinkedIn. Et là, ça a été incroyable. Je l'ai postée. Le pire, c'est que j'ai même pas spécialement travaillé la légende de ma vidéo parce que je me disais c'est peut-être des amis de Montréal qui vont commander mon déo. Et en soi, c'est cool, mais c'est aussi dommage parce qu'il va falloir que j'envoie mon déo transatlantique. Ça va coûter cher de empreinte carbone, on n'en parle pas.
Ouais.
Donc en fait, je le faisais, mais tout en me disant que ça allait pas être le gros succès LinkedIn. Et en fait, j'ai découvert LinkedIn. J'ai posté cette vidéo. Et comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un commente un post, un article, quoi que ce soit sur LinkedIn, ça rend visible cet article à toute sa communauté. Et du coup, c'est ça qui a été le pouvoir. Tu vois, c'est comme si quelqu'un likait ta photo sur Instagram et qu'en fait, toute sa communauté verrait, dans son feed en premier, pas juste dans le truc des notifs, dans son feed en premier, la photo de Louise. Et là, ça a fait la vidéo de Justine Hutto, du coup, qui a été partagée dans le feed d'un maximum de personnes. On a eu 3500 partages en 48 heures. Donc, ça a été monstrueux parce que clairement, le partage, c'est la métrique la plus puissante,
clairement
t'es ambassadeur quand tu partages. Et on a fait 1 300 000 vues de la vidéo juste sur LinkedIn en un mois.
C'est cool.
Donc voilà, ça a été pas mal. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'à partir de ce jour-là, sur LinkedIn, on a commencé, donc la courbe a commencé à remonter, vraiment, il y avait des déos qui se vendaient, c'était fou, des commentaires sous la vidéo, les gens s'abonnaient à moi. Aujourd'hui, je suis passée de 400 relations, donc en novembre, à 46 000 aujourd'hui au mois d'août. Ça fait même pas un an et j'ai dépassé le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis sur Insta. Enfin, c'est quand même fou. Et en gros, LinkedIn, ça a permis que notre crowdfunding, la courbe du nombre, enfin, des ventes a été croissante, même exponentielle pendant tout le mois.
Ouais.
Et ça a été fou.
Et donc, tu en fait, le succès de ta campagne de crowdfunding est en majorité dû à LinkedIn, tu penses?
Ouais. Ouais, moi je le dis, en fait, je pense que le début d'une campagne est hyper important. Donc le début de la campagne a été relié à Instagram, à notre cercle d'amis proches, donc c'est ce qu'on appelle le cercle numéro 1. Ensuite, t'as le cercle numéro 2, c'est les amis d'amis, donc c'est tout ce qui a été activé via Instagram, le partage des stories, via mes parents qui envoient des mails à tous leurs amis pour les inciter à contribuer quoi, à notre projet. Et ensuite, atteindre le cercle 3, donc les gens que tu ne connais pas du tout. C'est ça qui est le plus difficile pour un crowdfunding. Mmh. Et là, le cercle 3, pour moi, il a été atteint dans LinkedIn parce que ça a été tellement de partage que ça a eu un effet boule de neige et ça a fait un buzz. Ça a vraiment été une vidéo virale quoi, sur LinkedIn.
Ouais, bah comme quoi, parfois, il faut juste pas trop réfléchir. Ouais. Franchement, on essaye un maximum de se dire, ça me fait rire les études de la viralité et tout. Ouais. Et il y a des tips, mais en fait, au fond, c'est juste que c'était un projet authentique, qui avait du sens, qui visait à avoir un impact positif. Et je pense qu'il en faut pas plus au final pour parler aux gens.
C'est ça, donc, une vidéo qui parlait aux gens.
Faut juste faire les choses pour les bonnes raisons et derrière, souvent, t'as des rewards de ça, quoi.
C'est ça, et aussi une démarche qui est pas souvent utilisée. Genre, le porteur de projet qui prend sa vidéo puis qui explique concrètement pourquoi son projet de A à Z et où il en est et pourquoi il a besoin des personnes aujourd'hui, enfin pourquoi il a besoin de consommateurs pour l'aider, plutôt de contributeurs sur son projet. En fait, c'est des démarches qui sont pas spécialement utilisées aujourd'hui et c'est pour ça que tout le monde a commenté en disant, et tout le monde continue de m'écrire aujourd'hui, que la démarche, c'est ça, elle est sincère, elle est authentique et elle est différente de ce qui existe aujourd'hui. Et c'est pourquoi, c'est pour ça que les consommateurs aujourd'hui, ils commencent à se sentir un peu trahis par les gros mastodontes, les grosses industries. Ils savent plus trop en fait s'ils ont confiance, s'ils peuvent croire à ce qui s'applique sur la peau dans tous les cosmétiques industriels. Alors pourtant, c'est des mastodontes qui ont des chercheurs à ne plus savoir quoi en faire. C'est des chercheurs au quotidien qui développent des nouvelles formules. Sauf qu'en fait, ça a tellement évolué dans les dernières années qu'on ne sait plus trop. Il y a des formules qui sont clean, il y en a qui ne sont pas clean du tout. Donc le consommateur est perdu et il faut leur donner confiance. Et pour ça, il faut lui expliquer clairement ce qu'il y a dans notre produit. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a vachement aidé aussi, quoi. Vous donner la confiance.
Totalement. Je me demande aussi, vu que non seulement vous êtes allé vite, que vous êtes jeune, que voilà, ça se développe. Comment est-ce que tu fais, toi, pour essayer de continuer à apprendre ? Parce qu'en soi, je pense qu'il n'y a pas de fin d'apprentissage. Enfin, oui, on peut finir nos études et du coup commencer vraiment à travailler, mais je pense que c'est une learning curve. Et avec l'entrepreneuriat qui, en plus, n'est pas quelque chose où tu coches des cases, j'ai telle compétence, comment est-ce que toi, tu essaies de continuer, entre guillemets, à te former, sachant qu'au quotidien, tu dois aussi faire avancer les choses et que parfois, ça ne va pas ensemble.
Ouais. C'est une excellente question et que je me pose d'ailleurs aujourd'hui, parce que pour le moment, il y a plein d'entrepreneurs, quand je leur demande, ils me disent « Moi, je lis des résumés de bouquins tous les matins, entre telle heure et telle heure, c'est résumé de bouquins de telle personne, de machin. » Écouter des podcasts, ça permet aussi d'apprendre des expériences des autres. Je pense qu'il y a plein de choses que je pourrais mettre en place. Aujourd'hui, j'ai vachement de difficultés parce qu'on n'est pas encore beaucoup dans l'équipe. On est en train de se structurer. À partir du moment où j'arriverai vraiment à déléguer un peu chacun son poste, je pense que je pourrais me reconcentrer sur apprendre. Mmh. Aujourd'hui, je fonctionne énormément à l'intuition. Et du coup, je me suis pas replongée dans des théories, dans des explications de ce qui se passe. Je rencontre beaucoup de monde, ça c'est sûr, et je me nourris de chacune des expériences. Donc là, j'apprends.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais mettre en place davantage. Voilà, lire des résumés de bouquins, je trouve que c'est une super idée et qu'il y a plein d'entrepreneurs qui le font. Et je suis sûre que j'irai là-dessus. Mais là, il faut d'abord que ce soit bien, bien structuré, qu'il y ait des personnes pour gérer chaque chose. Et comme ça, je pourrais aussi prendre ma petite demi-heure dans la journée pour me dire, OK, là, c'est mon moment apprentissage.
Ouais, mais il y a des priorités, comme tu dis. Et vous, pour l'instant, c'est de continuer à grandir. Je comprends.
Ouais, la priorité, c'est surtout de délivrer. Tu vois, aujourd'hui, on a une demande qui est limite plus forte que l'offre, quoi. Donc en fait, il faut qu'on arrive à s'ajuster, il faut qu'on arrive à gérer toute la logistique, il faut qu'on arrive à gérer toute la production et ensuite en parallèle se dire OK, il faut qu'on se développe, il faut qu'on lance des nouveaux produits, il faut qu'on fasse ça.
Bah carrément, parce que la crème solaire au final elle est arrivée très vite.
Ouais.
Quand est-ce que vous vous êtes dit, enfin vous avez à peine livré les déodorants que vous direz que vous êtes dit on veut aussi lancer une crème solaire ? Ça n'a pas été trop compliqué
ça nous. En fait la crème solaire on l'avait en tête avant même de lancer le crowdfunding. Donc ça fait depuis avant novembre.
Ouais.
Après ça restait toujours au fond de nos têtes en se disant bon attends faut quand même voir que le déo marche ou pas et puis après on verra. Mais je sais pas, on avait une intuition avec Thomas de se dire la crème solaire c'est quand même un produit qui ultra utilisé, qui a un impact sur la santé qui est énorme, en termes de déjà ce que tu t'appliques sur la peau, mais surtout si t'en mets pas, le soleil, c'est pas possible.
Il fait des ravages.
Voilà, il faut en mettre.
Le soleil sur les fesses en témoigne.
Ah bah voilà.
Je peux l'approuver, ça a été fatal.
Voilà, du coup, la crème solaire, on l'avait en tête. Et en fait, on avait briefé plusieurs laboratoires. Et on a eu la chance d'avoir un labo, du coup, qui était déjà spécialisé de la crème solaire, qui bossait déjà dessus, donc notre labo. Et qui a su répondre au brief très rapidement et surtout produire dans les temps. Et c'est pour ça qu'on a fait, en fait, une édition limitée sur cet été. C'est qu'on n'a pas pu produire plus parce qu'il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt pour pouvoir sourcer toutes les matières premières. Et en fait, on s'est dit, bah, ce sera un test pour cet été. On a lancé que la protection solaire 30 et pas protection 50. Parce qu'en fait, 30, on a réussi à la développer. 50, c'était vraiment du plâtre pour étaler à cause des filtres minéraux, en fait, qui sont beaucoup plus blancs que les filtres chimiques. Et du coup, on s'est dit, on n'a pas fait de concession, quoi. On s'est dit, on va pas la lancer. Vu qu'elle est blanche, on va attendre l'année prochaine et bien la développer. Et donc, on a lancé que la 30. Et c'est un peu un test, en fait, de voir est-ce que ça plaît aux consos, qu'est-ce qu'on a comme retour et comment on développe davantage la crème encore pour l'année prochaine. Donc, comme on a eu la chance de la sortir, ce qui est incroyable, c'est qu'on a déjà des retours. Enfin, ils sont top, quoi, les retours des consommateurs. Bah, c'est ça, on co-crée le produit ensemble. Là, ils nous disent, par exemple, bah, la pompe de la crème, elle est pas top. Voilà, il y a des moments, elle bloque un peu, donc on arrive mal à étaler. Ok, bah, on change la pompe pour les prochaines. Là, à ce moment-là, ce serait bien que ça s'étale un peu plus facilement. Bon, elle s'étale déjà très bien, je dis ça, mais c'est pas un vrai retour qu'on a eu. Mais c'est ce que moi, j'ai dit, il faut que ça s'étale encore mieux. Moi aussi, je briefe mes équipes, voilà, je briefe les équipes à fond avec mes retours. Mais en fait, rien que, enfin, d'avoir les retours des consos, c'est génial. Et je pense vraiment qu'en septembre, donc l'été sera passé, tout le monde aura utilisé sa crème solaire, je vais poster un sondage et à tous les consos qui ont commandé la crème solaire, voilà, donnez-moi vos retours, on développe pour les prochaines et je veux savoir ce qui vous a plu et ce qui vous plaît moins.
Et là-dessus, tu le fais principalement sur Instagram, sur LinkedIn, sur mail?
Bah là, ce que j'ai en tête, c'est que je le ferai certainement par mail avec les consos, parce que du coup, on a les mails de toutes les personnes qui ont commandé. Ouais. On va essayer de le faire comme ça. Mais je pourrais très bien le faire sur Insta, parce que ça marche hyper bien. En story, il suffit, tu fais ton petit sondage 1-2, et en fait, tu laisses les gens répondre.
C'est très rapide.
Et je pense que ça, on va le faire, mais du coup, t'es pas sûr que ce soit juste tes consos qui répondent.
Ouais.
Donc ça, ce sera plus en mode, quelle crème solaire vous préfériez avoir, quel type, machin.
Voilà, quel indice, ce genre de choses, ouais, je comprends.
Voilà. Mais c'est vrai que tu peux vraiment co-créer ensemble avec toutes les personnes. Ouais. C'est à ça que servent les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. C'est d'échanger ensemble constamment.
D'interagir.
T'as plus de barrières.
Ouais, clairement. C'est une chance.
Ouais.
Et je me demande aussi, du coup, parce que donc j'ai compris que t'avais une petite équipe, qui est-ce que t'as recruté en premier et comment est-ce que tu fais pour continuer en fait à essayer de recruter, bien choisir, c'est un vrai sujet. Enfin voilà, j'imagine par exemple, vous êtes chez Monop, mais pour rencontrer Monop, pour négocier les tarifs et tout, est-ce que c'est toi qui as fait ça ou est-ce que ton associé qui a un profil plutôt business, enfin la compta, enfin c'est des gros sujets et comme vous avez une croissance très rapide, ben faut s'entourer vite et parfois quand c'est vite, ben on se dit c'est pas forcément bien, enfin faut pas prendre n'importe qui non plus, quoi.
Ouais, bah c'est des vrais sujets, ça, parce que dès le début, moi j'étais paniquée quand j'ai sauté dans le grand bain, je me suis fait contacter par Monoprix, enfin que je les ai rencontrés la première fois, j'étais complètement paniquée, je me disais mais j'étais vraiment stressée, j'ai eu dans
tu
la même journée
genre... Monop, c'est le truc, on y va tous les jours, enfin alors par contre j'ai appris que c'était parisien, c'est dingue, moi je pensais que c'était dans toute la France.
Alors, il y en a aussi en France, mais la majorité à Paris.
Ah, d'accord.
Ouais, mais il y en a aussi en
France. Parce que je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est Monoprix, mais en gros, c'est un grand supermarché, quoi.
Ouais, c'est ça, mais quand même assez premium.
Oui, assez premium.
Monoprix, c'est plus haut de gamme dans les types de GMS, comment on appelle ça, grande et moyenne surface.
Ah,
j'ai appris tous les termes de distribution.
La pharma, la distribution.
Et en fait, alors, pour répondre à ta question, du coup, sur Monoprix, comment on a fait? En fait, on a eu la chance d'être contacté par Monoprix directement, d'avoir beaucoup de demandes entrantes de distributeurs qui veulent distribuer Respire. Donc ça a été une chance dès le début, mais dès le crowdfunding. Donc on était tout petits et en fait, tout d'un coup, il y a des grands qui veulent nous distribuer. C'était fou. Et là, ça a été une chance de rencontrer Monoprix. Et je vais le dire franchement, je leur envoie des fleurs parce qu'ils sont top. Ils ont été géniaux parce qu'ils nous ont aidés, ils nous ont appris tous ces termes. Et surtout, ils nous ont aidés même à bien fixer les prix pour s'assurer de pas se tromper dès le début. Enfin, ça a été un vrai accompagnement qu'on a eu avec Monoprix et pour rien au monde, du coup, je regretterais d'avoir lancé avec eux en premier.
C'est trop cool.
C'est un vrai aide et c'est pour ça, Monoprix lance les pépites françaises. Comme ils disent, ils dénichent les pépites françaises et c'est eux qui les lancent. Ils ont lancé Michel et Augustin il y a 10 ans.
Ah ouais.
Donc en fait, ils ont cette fierté-là. Ils ont l'œil et puis ils disent « Ah, on lance les petites pépites ». Alors, mais moi, je les adore. Vraiment, Monoprix, ils ont été top. Ensuite, c'est vrai qu'on a des rendez-vous parfois avec d'autres distributeurs ou d'autres personnes que je rencontre. Et alors là, on me parle de trucs et je suis complètement perdue. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on arrive dans l'entrepreneuriat, on n'a pas... Déjà, on fait 10 000 métiers en même temps. On n'a pas toutes les compétences et on est un peu naïf. Et en fait, je me suis retrouvée là-dedans et du coup, je suis hyper honnête. Quand il y a des acheteurs face à moi qui me parlent de remise avant, remise arrière, de trucs sur facture que je ne comprends rien, ben je leur dis, alors je comprends pas, donc déjà, il va falloir me détailler un peu plus. Je suis désolée, ça va prendre un peu plus de temps qu'avec un directeur commercial ou un commercial généralement. Mais il va falloir m'aider. Et puis après, bah, encore une fois, je m'entoure des bonnes personnes. Je demande autour de moi, tiens, qui est commercial? Je contacte d'autres entrepreneurs. Excuse-moi, est-ce que je peux rencontrer un commercial de ton équipe qui puisse me donner un peu plus d'infos? Et puis, j'avais en tête forcément, OK, il va falloir qu'on embauche un commercial. Donc, ça y est, j'ai trouvé.
Yeah.
C'est une fille et elle arrive bientôt. Je croise les doigts, elle arrive dans 2 mois, je pense. Elle a un peu de préavis. Donc, voilà, du coup, j'ai trouvé une commerciale. Et sinon, du coup, pour les équipes, pour répondre à ta question, en fait, la première personne qu'on a embauchée, c'est Beryl. Elle est trop top. Et Beryl, elle est arrivée en développement produit.
Ouais.
En fait, dès le début, on s'est dit, OK, on s'est attaqué au marché des déodorants, on s'est attaqué en deuxième à la crème solaire, mais en fait, on veut s'attaquer à toute l'hygiène, à toute notre routine quotidienne de la salle de bain.
Ouais.
Parce que clairement, il y a tous les produits à passer en revue aujourd'hui. Il n'y a personne qui a vraiment confiance dans chacun des produits qu'il met sur son corps chaque matin. Et donc, on a un gros défi, c'est d'avoir toujours des produits qui sont de super qualité, qui sont clean, qui sont naturels, aussi efficaces que nos produits d'avant, parce que sinon on va pas réussir à faire une transition, et avec un impact environnemental encore plus neutre. Donc en fait, on a des briefs assez précis, et puis je rajoute le Made in France, hein, parce que ça,
c'est
fait partie aussi du petit brief, il y a un cahier des charges, je veux que ce soit Made in France,
ouais.
Sauf si un jour je pourrais vraiment que développer ce type de produit en Espagne, et qu'en France c'est trop compliqué, bah ce sera une concession que je ferais, mais je l'assumerais totalement. Et donc pour ça, il fallait que j'embauche quelqu'un, parce qu'en fait, développer un produit, c'est très très compliqué. Déjà, il faut avoir toute cette notion de ce qu'on souhaite, de les contacts en fait avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à le développer. Il faut challenger aussi les différents fournisseurs entre eux, parce que sinon, bah, je pense qu'un fournisseur peut aussi se reposer sur ses lauriers et puis nous proposer quelque chose et dire bah non, on peut pas faire mieux. Alors que là, en fait, on challenge différentes personnes, comme ça, on s'assure d'avoir le meilleur produit. Et pour ça, Beryl est arrivée chez nous, elle est passionnée de cosmétiques. Alors son bureau, c'est du gros n'importe quoi. Avant qu'elle arrive, c'était tout rangé. Beryl, quand tu vas m'écouter, tu vas rigoler. Et maintenant, c'est le bordel. Il y a des produits partout parce qu'en fait, elle teste des produits quotidiennement.
Okay.
Elle achète tous les produits du marché. Elle teste plein de produits qu'on lui envoie. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle me donne des devoirs pour le week-end d'aller tester tel produit. Et c'est génial parce qu'en fait, on découvre plein de produits. Alors, du coup, ça nous apporte encore plus de créativité. On a encore plus envie de lancer plein de choses. Et on se rend compte qu'il y a 10 000 produits qu'on pourrait lancer parce qu'il y a plein de choses vraiment sur le marché qu'il faut un peu remettre en question.
Mmh.
Et donc, Beryl a été la première personne qui est arrivée chez nous. Il y a eu aussi Camille en responsable communication, alors qu'elle est top. Et parce que là, ça a été... Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Respire, on joue beaucoup sur la communication, clairement, entre... Bah, les réseaux sociaux, en fait, on n'a rien dépensé en marketing aujourd'hui, c'est uniquement de l'organique sur les réseaux. Donc, c'était hyper important. Et pour moi, ce qui a été difficile, c'est de faire la part des choses entre bah, mon compte, en fait, mon compte que je gérais déjà, mon compte Insta,
ouais.
Et le compte Respire. Et en fait, je voulais pas raconter 2 fois la même chose.
Ouais.
Ça sert à rien, sinon les gens, ils vont pas suivre les 2 comptes. Et je voulais que quelqu'un, je voulais me détacher aussi un peu de Respire. Donc, aujourd'hui, c'est quand même difficile, puisque c'est moi qui suis la fondatrice. Mais je voulais que quelqu'un prenne la voix de Respire avec un ton un peu humoristique, un ton, enfin, des couleurs, voilà, très créative. Et puis, alors, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas très, très créative. Donc, j'ai rencontré Camille, qui est vraiment super parce qu'elle allie tout ça, la plume, la créativité. Et en fait, j'arrive à trouver vraiment dans Camille la voix de Respire que je cherchais.
Trop cool.
Donc, c'est génial. Et ensuite, bah là, on a un directeur opération qui va arriver, parce que ça, c'est quand même aussi un gros travail, réussir à gérer les opérations. À la base, c'était Thomas. Et en fait, il y a tellement de choses à faire que les opérations, bah, c'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est supply, donc réussir à sourcer toutes les matières premières, tous les produits, relancer la production si on est en rupture de stock, enfin même avant la rupture de stock plutôt. Et donc, tous ces process à mettre en place, il faut clairement qu'on ait des spécialistes.
Ah bah
et
ouais.
Donc, pour ça, bah, c'est LinkedIn, en fait. Toutes les personnes qu'on a embauchées aujourd'hui, c'est à travers LinkedIn. Alors, soit c'est des personnes qui m'ont contactée, que j'ai eu la chance de rencontrer via des échanges sur LinkedIn. Soit c'est moi qui suis allée les contacter directement en essayant de rencontrer la personne pour avoir plus d'infos sur son métier et si elle connaît des personnes autour d'elle. Et puis, il s'avère qu'il y a des personnes qui ont eu envie de se challenger et de changer et de venir chez Respire. Donc, c'est aussi un beau projet et... Et là, c'est chouette parce qu'on commence à être une belle petite équipe qui se structure et on va bientôt avoir des nouveaux bureaux. Donc,
exciting.
Tout qui se met en place et c'est génial parce que ça donne envie d'aller encore plus loin. Et surtout, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on a réussi à créer de l'emploi et à avoir une petite équipe en fait, qui porte les mêmes valeurs pour aller dans le même projet avec la même vision. Et
ouais, mais c'est trop gratifiant.
Je suis trop fière.
J'ai 2 petites dernières questions pour toi.
Ouais.
La première, c'est si jamais tu avais une ressource à conseiller à ceux qui nous écoutent, que ce soit un film, un livre, un podcast, tu vois, un truc qui t'a particulièrement touché ou aidé, qu'est-ce que ce serait?
Je dirais le podcast Le Gratin.
Okay.
De Pauline Léniaud. Alors, j'adore ton podcast aussi. Sinon, je recommande le podcast de Louise.
Si vous ne connaissez pas.
Si vous ne connaissez pas, mais si vous êtes en train de l'écouter, c'est que vous l'écoutez déjà, certainement. Mais sinon, il y a le podcast aussi de Pauline qui est top parce que, de la même manière que le tien, c'est des interviews de personnes d'expérience, des personnes dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tu vois, tu me parles d'apprentissage, mais en fait, pour moi, le plus gros apprentissage aujourd'hui, c'est de me nourrir des expériences des autres. Et on a tous plein de choses à partager, donc ça aide beaucoup. J'aimerais recommander des livres, mais j'ai pas un livre aujourd'hui qui m'a vraiment marqué. Et en fait, le souci aussi, c'est que je ne prends plus du tout le temps de lire.
Donc,
dès que je me remettrai à lire, je vous recommanderai plein de livres, je vous jure.
Parfait, je fais un petit heads up. Justine est revenue vers moi.
Justine est revenue.
Je suis d'accord avec toi, les podcasts, en fait, c'est plus pratique.
Ouais.
J'adore lire. Hein. Je préfère lire en soi parce que c'est un amour des mots différents. Mais le podcast, c'est vraiment pratique quand on a un rythme de vie assez intense.
C'est ça. Le podcast, tu le mets dans tes oreilles, tu prends le métro, tu vas faire du sport. Et en fait, tu te mets dans complètement autre chose et tu deviens imprégné par toutes les paroles de la personne qui te parle.
Totalement,
et c'est complètement dingue.
Ça te stimule beaucoup.
Ouais, ça te stimule.
Je suis très d'accord. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Waouh. Prendre le pouvoir de sa vie, alors tout simplement, je dirais avoir confiance en soi et faire notre rêve. Mais en fait, on peut pas spécialement accomplir notre rêve parce qu'on a tous des rêves un peu différents. Je dis pas que mon rêve c'était être entrepreneur, mais mon rêve c'était de m'accomplir et de pas faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Et aujourd'hui, je le fais par pure passion. Voilà, j'ai trouvé ma voie dans Respire, dans les cosmétiques. Alors qu'à la base, j'étais pas du tout dans les cosmétiques parce qu'en fait, mon rêve, plutôt derrière, c'était d'apporter de la transparence dans quelque chose. Enfin, mon accomplissement, c'est ça, c'est d'apporter de la transparence, d'être fière de faire ce que je fais, d'être honnête. Et en fait, je serais pas bien dans mes baskets si j'étais pas honnête aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on me challenge sans arrêt pour que je sois de plus en plus honnête, que je raconte plein de choses. Et je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est se faire confiance et pas avoir peur justement d'être honnête et de raconter vraiment ce qu'on pense.
Voilà. Trop cool. Merci beaucoup Justine d'être venue sur InPower et nous avoir partagé tout ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, bon, on en a pas mal parlé en fait, à la fois sur ton compte perso sur Insta.
Ouais.
C'est @justinehuto.
Ouais, c'est ça.
Il y a le compte de Respire.
Il y a le compte Respire Naturel sur Instagram. Et puis après, il y a LinkedIn pour ceux qui veulent aller sur LinkedIn. Justinehuto aussi.
Allez voir. Et le site de Respire que je mettrai dans les notes du podcast pour voir tout ce que tu nous réserves.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Bye. Merci de s'être rejoint à nous pour cette conversation avec Justine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @justinehuto et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si cet épisode peut aider un de vos proches, n'hésitez pas aussi à lui conseiller, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Et si InPower vous plaît, vous pouvez vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir aussi les épisodes bonus. Un grand merci encore à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.